Je dessine depuis que je suis tout petit, alors... Bah voilà quoi, je dessine tous mes rêves.
Hergé, Franquin, Uderzo et Goscinny, Moebius ou adepte de Stanley.
C'est-à-dire, tu en fais des tableaux, des illustrations?
Non, pas vraiment. En fait, j'en fais des bandes dessinées.
Ah, c'est magnifique.
Monsieur Samuel a tout ce que les amateurs de bandes dessinées rêvent d'avoir.
Les éditions Casterman présentent Studio à suivre.
Bonjour à vous, bienvenue dans le nouvel épisode de Studio à suivre, le podcast qui dessine. Le premier vendredi de chaque mois, vous avez rendez-vous avec une figure du dessin. Et cette fois, nous allons rencontrer un monument. François Skuyten, le co-auteur avec Benoît Peters des Cités Obscures. Et il co-signe, Skuyten et Peters, ces temps-ci un livre, Bruxelles, un rêve capital. Et si on parle de monuments, ce n'est pas un hasard, car ils sont dans ce livre, les monuments bruxellois, de toutes les époques, rêvées, réelles, transformées. Dans ce livre, Skuyten et Peters font le tour de tous les possibles de Bruxelles, ses méandres, son histoire, ses personnalités étonnantes. C'est un hommage à leur ville, à leur centre de gravité, peut-on dire. Un portrait de la ville en lieu de légende, de fiction, de fantasme. Un livre qui n'est pas une bande dessinée à proprement parler, pas un guide, pas un essai. La première invention de ce livre, c'est sans doute sa forme même.
Le livre est un lieu d'émerveillement, un lieu de... et qui doit être perpétuellement réinventé pour moi. Benoît et moi, on adore les livres. Benoît est éditeur, en plus, il est auteur-éditeur. Mais on a ce goût du livre, de l'objet livre, le goût du papier, le goût de tout ce qui forme cette espèce d'objet qui est un vaisseau qui nous envoie dans des lieux magique et en même temps qui nous donne des sensations, des émotions. Donc oui, c'est vrai qu'à chaque fois, on essaye de trouver ce qui va nous permettre de ce petit goût du livre qu'on ouvre et qui nous ouvre des espaces, qui nous donne du plaisir, qui nous intrigue, qu'on a envie de rouvrir. Enfin, c'est un peu ça, hein, pour moi, la beauté d'un livre.
Est-ce que vous dites là de la capacité d'un livre, d'un album en particulier? J'ai l'impression que ça s'applique aussi à Bruxelles, telle que vous la décrivez dans ce livre avec Benoît Peters, dans Bruxelles, un rêve capital. C'est-à-dire que l'idée d'y revenir et l'idée d'avoir une dimension un peu magique un peu cachée, c'est ça que vous décrivez dans Bruxelles, une sorte de ville potentielle.
Oui, alors d'abord, pour être honnête, chaque ville a une complexité, a une histoire, et donc ça prend du temps d'essayer de l'approcher, d'un tout petit peu se l'approprier. Ça prend énormément de temps. Et même Bruxelles, qui est ma ville, j'en perçois maintenant des tas d'aspects, mais en même temps, je suis certain qu'il y a des tas de choses qui m'échappent, et je me sens toujours tellement inculte quant à son histoire. Mais en même temps, c'est vrai que par toutes les couches, et par tous ces regards successifs, et par ce travail de dessinateur, qui est un travail laborieux et long, il y a quand même, d'une manière ou d'une autre, une façon d'essayer de comprendre une ville. Et le dessin, pour ça, est un très bon outil pour essayer de la décrypter. Parce qu'on est obligé de comprendre quand on dessine, et d'aimer, et dès lors, ça vous aide à l'approcher, à la séduire et à ce qu'elle vous séduise aussi.
Vous dites souvent que vous avez besoin de temps pour être satisfait d'un dessin. Est-ce que c'est justement ce temps-là qui permet d'apprécier, d'aimer un endroit qui a priori peut ne pas souffrir, ne pas tendre les bras? Le fait de passer du temps à dessiner un bâtiment, par exemple, des bâtiments, à dessiner une ville, fait qu'on voilà, on finit par la comprendre et on finit par l'aimer.
Oui, il faut du temps. Dans mon cas, je crois qu'il y a des dessinateurs qui ont sans doute cette capacité à voir plus vite, plus clair. Par certains côtés, je dois reconnaître que j'aime ça, j'aime ce temps-là. J'aime le temps qui, couche après couche, prend un petit peu des perceptions, prend les humeurs de toutes ces périodes de recherche, d'essais, d'erreurs. Et puis le temps des années. Pour ce qui est du palais de justice, par exemple, que je dessine depuis si longtemps, eh ben ça me plaît parce que je me dis, tiens, du coup, comment je le dessine aujourd'hui avec le corps que j'ai, avec le regard que j'ai et se superpose la mémoire de ce que j'ai gardé de mes anciens projets et puis la façon dont cet objet a vécu, s'est transformé aussi au regard des autres. Et les lieux s'enrichissent de tout ça et peut-être aussi les dessins.
Alors dans ce livre, dans Bruxelles, un rêve capital, vous arrêtez effectivement sur plusieurs figures de l'histoire de la ville et sur plusieurs bâtiments. Vous parlez à l'instant du palais de justice de Bruxelles, que vous décrivez avec Benoît Peters comme une fantastique machine à fantasmes aussi, à légende quasiment.
Le palais évidemment a une situation particulière, c'est qu'il est mal aimé. Et les lieux mal aimés sont des lieux extrêmement attachants, extrêmement troublants, parce qu'ils n'ont pas été regardés, parce qu'on les a oubliés, parce qu'ils ont disparu du regard. Et c'est comme si brusquement on s'était habitué à leur déchéance. Ça, c'est quelque chose de, en même temps, de révoltant et en même temps de très romanesque, de très puissant au niveau de l'imaginaire. Parce qu'on voit les plantes percées à travers les pierres, on voit des escaliers qui, au fur et à mesure, se démantèlent et la pierre qui s'effrite et tout ça. Et il y a bon, voilà. Mais ça n'empêche qu'à côté de ça, nous, on se bat. On a créé cette fondation Poulart. Donc le dessin amène aussi, curieusement, à un engagement très réel où on avance. Et oui, il y a déjà des effets. Enfin, c'est pas, heureusement, c'est pas seulement dû à la Fondation Poulart. Je pense qu'à un moment donné, il est quand même un peu indécent que, au cœur même de cette ville de Bruxelles, capitale de la Belgique, capitale de la Flandre, capitale de l'Europe, on laisse ce bâtiment abandonné.
Il faut peut-être le dire, ce palais de justice qui domine Bruxelles, qui est maintenant quasiment, alors il n'est pas caché, mais en tout cas il y a quand même une façade dans l'échafaudage qui a l'air d'être de ne plus vouloir bouger. Et vous racontez dans Bruxelles avec Benoît Peters, Françoise Cuyten, que vous racontez l'histoire de l'architecte qui lui-même semblait avoir perdu les plans, qui lui-même refusait de dire un peu les secrets de ce bâtiment, dont on dit aujourd'hui que certaines salles sont tellement difficilement accessibles qu'elles ont été condamnées, certaines pièces ont les pieds dans l'eau, qu'un coiffeur y a pratiqué de manière officieuse pendant des années. Voilà, les légendes aussi liées à ce bâtiment qui est effectivement extrêmement graphique et dont on peut se demander s'il n'y avait pas déjà un écho dans certains autres de vos livres. Évidemment, il y a Bruxelles dans la série des cités obscures, il apparaît très clairement, sauf qu'à la place de la coupole, il y a une pyramide, ce qui semble, vous nous dites en tout cas, que ça a été le projet. Et puis dans La fièvre d'Urbicande, qui a été réédité en couleur il y a quelque temps par Casterman, ce sort de mécano qui grossit, qui prend de plus en plus de place, on dirait aussi que quand on le voit de loin, voilà, il y a quelque chose comme un écho avec cet échafaudage géant au cœur de la ville, autour de ce palais de justice.
Oui, c'est vrai que, en fait, ce qui est passionnant dans les lieux, c'est leur histoire, c'est leur destin. Ce qui est passionnant, c'est que donc ce destin-là, il est, dès sa naissance, et il est troublant, passionnant, excessif, fou. Ils veulent construire le plus grand palais de justice du monde. Et puis, Poulart a un contrat hallucinant avec la ville. Je ne sais pas comment on a autorisé ça, c'est la seule fois, je crois. C'est qu'il a le droit de repenser son bâtiment à partir du moment où ce n'est pas construit. Donc, il réinvente continuellement au fur et à mesure de la construction. On a des tas de plans maintenant qu'on a retrouvés qui montrent des formes et des situations très différentes pour le couronner. Et bon, évidemment, il n'en verra pas la fin. Ce qui est d'ailleurs, par certains côtés, on a l'impression que c'est comme si c'était né dès le départ, cette histoire-là. Y a quelque chose d'infini dans son projet. Et ça, on le sent. On sent ça, ces pierres transpirent de cette étrangeté et de cette folie quelque part, et de ce rêve d'un si petit pays qui veut devenir aussi grand, qui veut sans doute montrer sa puissance, parce que c'est vrai que c'est une puissance importante à l'époque.
Il y a une chose qu'on comprend à la lecture de ce livre, c'est que Bruxelles est une ville qui a presque négligé son présent pour constamment s'inventer vers le futur. C'est qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que ce qui se dit aussi, c'est que Bruxelles est une ville qui a fabriqué presque son autodestruction permanente pour se réinventer quartier par quartier, zone par zone. En dehors des guerres d'ailleurs, c'est ce qu'on apprend aussi dans le livre, c'est que les destructions de bâtiments n'ont pas forcément eu lieu pendant les guerres, mais plutôt entre les guerres.
Ouais, il n'était pas nécessaire, on a considéré qu'on pouvait faire aussi bien, et qu'on pouvait démolir aussi bien que des bombardements. Vous avez tout à fait raison.
Mais ce mélange justement, j'ai l'impression que ça va aussi avec votre propre imaginaire, ce que vous avez développé dans toute une série d'albums, c'est justement d'utiliser la matière présente pour imaginer le possible, le potentiel. Pour imaginer presque le fantasme, alors il y a cette image justement dans le livre de la rivière souterraine aujourd'hui, la Seine, S-E-N-E, et que vous transformez presque quasiment comme un bord de mer à un moment donné, avec un paquebot gigantesque. Voilà ce mélange-là de l'existant et du potentiel, c'est quelque chose qu'on trouve dans votre œuvre, François Skuyten.
Oui, c'est certain que c'est une ville par le fait qu'elle est sans doute la capitale d'un pays jeune et d'un pays qui donc a besoin de se projeter un avenir, de se réinventer continuellement un futur, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui d'ailleurs, c'est assez curieux. Mais en tout cas à l'époque, pendant tellement d'années, de décennies, c'est un pays presque sans histoire. Et donc c'est pour ça qu'il y a une foi dans les grands rêves, et c'est le cas par exemple du ferroviaire, on a été un des grands acteurs du ferroviaire, parce qu'on a là un outil qui est né presque en même temps que le pays. Et cette alliance va sans doute permettre qu'on développe un réseau ferroviaire à une vitesse et avec une ambition rare à travers le monde. Et on a sans doute encore un des réseaux les plus denses qui soient. Mais ce qui va faire aussi que, évidemment, on est prêt à détruire parce qu'il faut avancer, parce que et la mémoire et l'identité, l'idée de défendre son identité et son histoire, ce sont des choses qui n'ont pas l'air d'être au cœur de notre ADN.
D'ailleurs, vous racontez évidemment, il y a une figure incontournable quand il s'agit de parler de Bruxelles et de la ville et de ses bâtiments, c'est Victor Horta, signature de l'Art Nouveau, qui est un des grands architectes de Bruxelles. Et vous dites aussi que la conscience du patrimoine à l'égard de ses propres bâtiments, je crois qu'il est mort juste après la Deuxième Guerre mondiale, a été très, très faible. Il a fallu attendre un petit moment avant de défendre un peu les bâtiments. Certains ont disparu, d'autres ont été transformés.
Sans doute que parmi ses plus beaux bâtiments, ces constructions-là ont été détruites. Et il a vu une partie de cette destruction. Il a senti ce désamour face à son œuvre. Lui-même, d'ailleurs, a changé profondément de style. Évidemment, le style Art Nouveau n'était plus à la mode et on avait un certain dédain même pour ça. On s'en moquait. Ça appartenait à une époque révolue, d'avant-guerre, d'avant la guerre. La Première Guerre mondiale, et on voulait tourner la page de l'histoire, mais aussi de cet aspect de l'histoire de Bruxelles qui a fait sans doute que Bruxelles était vraiment une capitale de l'Art Nouveau. Ça, c'était une évidence, et on voit que, même s'il reste encore des choses remarquables, heureusement, on a eu à ce moment-là parmi les plus belles maisons du monde. Entre 1890 et avant la Première Guerre mondiale, la qualité des maisons bruxelloises est absolument époustouflante en termes d'ambition, de talent, de modernité. C'est remarquable et un florilège de grands architectes parce qu'il n'est pas le seul, Horta. Il y a Ankar, Jacobs, enfin il y en a énormément qui sont là et on voit tout ce qu'on... Comment on peut réinventer la maison avec quelle dimension d'intelligence par rapport à la lumière, par rapport au confort, par rapport à... C'est passionnant d'entrer dans les détails de cette époque et de voir toutes les trouvailles, tous les aménagements, toute l'ingéniosité dont ils ont fait preuve pour tirer profit au maximum des espaces. Et moi, je suis émerveillé de voir le talent qu'il y a eu à cette époque. Des artisans aussi.
Alors vous, votre père était architecte, votre frère est architecte, je crois, et votre sœur. Est-ce que vous, ces maisons Art Nouveau, ces maisons bruxelloises, cette période 1890-1914, si on vous dit « dessinez-nous une maison de cette époque-là », vous pouvez le faire comme ça, sans modèle. Est-ce que vous pouvez fantasmer une maison de ce type-là ?
Oui, fantasmer, mais j'aime pas trop mon... J'aime pas trop me faire confiance, comment dire, j'ai toujours un peu honte d'inventer. En fait, par certains, on invente tout le temps, enfin, on croit inventer par certains côtés, mais on recycle, on bricole. Et moi, je travaille beaucoup par... je fais des combinaisons, en fait, de choses. Je me considère avant tout comme un bricoleur. Mais alors, dessiner comme ça, sans regarder... J'ai toujours un peu de mal parce que, en fait, ce que j'aime beaucoup dans un dessin, c'est le moment où j'apprends, où je dois observer et où mon dessin se met au service de l'observation. Alors, le dessin m'a fait grandir et j'ai l'impression d'avoir appris quelque chose. Mais en même temps, je l'oublie aussi. Donc, je dois tout le temps y revenir et je dois tout le temps me remettre en état d'observation. Mais non, bon, il y a des fois où quelquefois, je me lance mais c'est pas les moments où je me sens le plus inspiré par certains côtés. Je suis inspiré quand je suis vraiment en état de tension sur l'observation, sur le fait d'arriver à regarder, à comprendre et comment ça marche, comment ce truc a été fait, que ce soit une voiture, un soulier, une chaise, une maison ou un corps humain.
Les éditions Casterman présentent Studio à suivre.
Je crois que tu te rends pas bien compte de ce que ça veut dire. Je vais enfin réaliser ce que je suis. Je vais devenir dessinateur.
Ouais, bon. Il y a moyen de se faire du fric avec ses dessins, oui ou merde ?
Aujourd'hui, François Scoïten, vous passez une partie de votre temps à Paris. Et vous êtes entre Bruxelles et Paris. Est-ce que ça change votre regard ? Est-ce que ça change cette faculté d'observation, justement ? Être plongé un peu plus dans une autre ville, après avoir habité à Bruxelles jusque-là. Alors, qu'est-ce que ça change dans votre regard et éventuellement dans votre trait ?
Écoutez, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Il est certain que les villes nous influencent, on les façonne aussi, hein, nous humains, on les transforme, parfois mal, parfois bien, mais en tout cas, ce qui est incontestable, c'est qu'il nous conditionne, il nous transforme. Et donc, c'est sûr que Paris, surtout que comme je me promène énormément, je promène mon chien et j'adore la découvrir, la regarder, et ça fait longtemps, très 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 longtemps que je la regarde. Mais y habiter, c'est encore autre chose. C'est évident. Et là, c'est plus profond et c'est plus intime aussi. Parce que la ville vous pénètre autrement. Et c'est sûr. Alors c'est marrant parce qu'au moment où j'ai commencé Revoir Paris, le livre Revoir Paris, je ne l'habitais pas. Mais par contre, j'y allais tellement souvent. Bon. Et puis donc Revoir Paris, c'est marrant comme les albums de bande dessinée, quelque part, sont des jalons dans votre vie. Et quelquefois ils sont un peu en avance, quelquefois ils sont un peu en retard, mais ils disent toujours quelque chose de ce que vous vivez ou de ce que vous rêvez vivre. Et bon, c'est sûr que Revoir Paris, c'est assez drôle parce que quelques mois après le début, je déménage et cette coïncidence évidemment nourrit énormément le livre. Et je crois beaucoup à ça, moi, mine de rien, à ce que les livres soient comme ça, tellement tendus entre ce que vous êtes, c'est souvent le cas, mais parfois vous n'en êtes pas tout à fait conscient, d'ailleurs, c'est ça qui est... Enfin, parfois vous n'en êtes vraiment pas conscient, et parfois vous savez, mais vous ne voulez pas trop le savoir non plus. Oui, c'est très amusant, la façon dont les livres savent des choses de vous que vous-même, vous ne savez même pas, peut-être.
François Scoïten, j'aurais voulu tenter un pont entre deux, je sais pas si c'est deux influences, mais en tout cas deux figures qui ont l'air de compter pour vous, qui sont d'un côté, on a parlé de l'architecte Victor Horta, architecte de Bruxelles, qu'on retrouve encore une fois dans Bruxelles, un rêve capital, et puis avec Winsor McCay, l'inventeur de son personnage, auteur de bande dessinée, inventeur de Little Nemo, cet enfant, ce sort de Pierrot Lunaire qui tombe de son lit, qui se réveille après son rêve et à qui vous avez déjà plusieurs fois rendu hommage. C'est à peu près, enfin, c'est pas tout à fait, mais ce sont des périodes qui sont assez proches. Graphiquement, on pourrait presque faire une sorte de rapprochement entre certaines architectures et puis ce Little Nemo, ce trait arrondi de Winsor McCay. Est-ce qu'il y a quelque chose en commun dans ces deux créateurs?
Oh là là, alors McCay, c'est mon idole, c'est mon modèle absolu, c'est à tout niveau. Je dois dire que d'abord, évidemment, le dessinateur absolument génial, mais ce qu'il a fait avec l'écriture de la bande dessinée, qu'est-ce qu'il a réussi à inventer dans cette écriture? Et alors, il y a la fascination de l'œuvre, il y a aussi la fascination de son parcours. Ses recherches dans l'animation sont extraordinaires. Ses recherches dans le domaine du spectacle, dans le domaine de l'illustration, tout me passionne chez lui. Et je crois que, comment dire, pour moi, c'est le modèle absolu parce que je trouve que c'est un auteur qui est resté, comment dire, toujours en train de réapprendre, d'inventer des nouvelles formes. Je suis autant fasciné par l'idée de ces spectacles qui mélangent de ces dessins animés, lui-même est sur scène, il dessine en direct. Enfin, je trouve que c'est un homme d'une modernité incroyable et qui parle encore aujourd'hui. C'est un homme multiforme, multimédia. Et c'est un auteur qui est passé d'un médium à l'autre d'une façon exemplaire. Je ne connais pas quelqu'un qui a fait ça aussi bien et qui a fait des chefs-d'œuvre dans tous les domaines. C'est un cas d'école. Et même sa mort, où à un moment donné, il ne sait plus dessiner, et il meurt quelques heures après. Comme si c'est vraiment l'homme dessin. C'est comme Molière sur scène. C'est une perfection.
Mais est-ce que vous pourriez... Est-ce qu'il y aurait un lien, j'allais dire presque graphique, entre McCay et Horta,
ce qui est certain, c'est que McCay capte vraiment son époque, capte les rêves de son époque, les expos universelles qui se préparent, cet extraordinaire florilège de formes dans les régions dans lesquelles il est, mais aussi ces grands espaces festifs qu'il connaît bien, où il y a des foires qui sont des lieux d'émerveillement quand il est enfant. Et il capte tout ça, il capte les modernités de cette Amérique. Il l'amplifie. Il y a en même temps une science du dessin. C'est vraiment quelqu'un qui... Et puis il y a une drôlerie, ça c'est quelque chose que je n'ai pas assez développé. Je suis toujours complexé quand je vois comme c'est drôle ce qu'il fait. Et en même temps, comme c'est vertigineux de talent, et puis la dimension poétique, la dimension totalement onirique. Je ne m'en lasse pas de Winsor McCay.
Oui, puis il y a une dimension de rêve, une dimension onirique. Il faut peut-être rappeler qu'une des premières revues dans laquelle vous avez publié s'appelait Le 9e rêve. Il y a un lien sans doute. Et puis encore une fois, Bruxelles, la rêve capitale, on comprend que ce livre est une manière de visiter, plus que revisiter, de visiter Bruxelles, ville de fiction, ville potentielle, ville de rêve aussi, de possible. Ce qu'il y a derrière les murs, ce qu'il y a derrière les pierres, ce qu'il y a sous les pavés, et aussi toutes ces figures. Bruxelles, un rêve capitale, c'est aussi ces figures de... un hommage aux Bruxellois, tout simplement. Il y a la ville et il y a ceux qui sont dedans.
Oui, absolument. Un hommage aux Bruxellois. J'aime cette ville, surtout peut-être par sa complexité, peut-être par ses défauts, par ce côté joyeux bordel architectural, mais aussi ce multiculturalisme, cette façon dont elle est composée de tellement de choses. À la différence de Paris, qui est une ville beaucoup plus cohérente, beaucoup plus évidente, mais qui a quand même mis parfois un peu la poussière sous le tapis. Hein, on a mis un peu sur le côté toutes les choses qui ne nous plaisaient pas. Bruxelles, c'est le contraire. Tout est au centre et j'aime ça. J'aime ça parce que du coup, on est au cœur du monde quand on est à Bruxelles. Et on ne se cache rien. Tout est là. Et là, on me demande de réfléchir là, à la fin de la semaine, parce qu'il y a un petit comité qui s'est créé pour réfléchir sur ce que pourrait être Bruxelles, capitale de la culture en 2030. Et c'est vrai que j'adore continuer à participer à ces réflexions et à participer avec d'autres acteurs de cette ville, à ce que pourrait être un événement comme celui-là. Et oui, et alors on essaye de chercher ce qui particularise cette ville. C'est très amusant parce que ça nous permet de croiser les regards et de voir à quel point elle est diverse, à quel point elle est multiple et complexe, avec d'énormes défauts, mais aussi des qualités qui se révèlent. Et ça, les gens qui la vivent le savent plus que quiconque.
Une lettre d'amour à une ville, Bruxelles, un rêve capital. François Skeuten, que vous signez avec Benoît Peters chez Casterman. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Studio à suivre, le podcast qui dessine, c'est tous les premiers vendredis du mois. En attendant le prochain, allez donc réécouter les précédents. C'est sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt.
Les éditions Casterman présentent Studio à suivre. Au micro, Thomas Baumgartner. Direction éditoriale, Cathy De Greff. Réalisation, Charlène Nouilloux. Une production Wave Audio.